C'est un habitant des terres sèches à qui on demande un jour « Qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi ? Un joli litre d'eau ou une mare entière ?» Et l'autre réfléchit un long moment avant de répondre « Le joli litre, pour sûr. Nul ne pourrait posséder une mare tout entière. Mais le joli litre, on peut facilement le cacher sous sa cape et se sauver avec. Personne ne s'en apercevrait. » Bon mot de l'ancienne dune, archive du Bene Gesserit. La séance dans la salle d'entraînement du non-globe avait été particulièrement longue. Duncan, dans sa cage mobile, dirigeait l'exercice, fermement déterminé à ne pas accorder de répit à son jeune nouveau corps tant que celui-ci n'aurait pas maîtrisé les 7 postures centrales de riposte à des attaques venues de 8 directions différentes. Sa combinaison verte était assombrie de transpiration. 20 jours qu'il peinait sur cette leçon. Teg avait connaissance des anciennes techniques utilisées ici, mais il les utilisait d'une manière différente et sous d'autres noms. Au bout de 4 ou 5 jours, il avait commencé à avoir des doutes sur la supériorité des méthodes modernes. À présent, il était d'ailleurs convaincu que Duncan inventait quelque chose de nouveau, mélangeant ses anciennes connaissances avec celles qui venaient de lui être inculquées à la citadelle. Le Bachar était installé à son pupitre de commande, où il jouait le double rôle d'observateur et de participant. Les circuits qui contrôlaient les mouvements des dangereux mannequins utilisés pour cette séquence avaient nécessité une certaine adaptation de sa part, mais il se sentait maintenant à l'aise et conduisait l'attaque avec une dextérité fréquemment inspirée. Lucille, grincheuse, venait de temps à autre passer la tête dans l'encadrement de la porte. Elle la regardait un moment, puis se retirait sans faire le moindre commentaire. Teg ignorait les intentions réelles de Duncan à l'égard de l'imprégnatrice. Il avait cependant l'impression que le Gola à la mémoire nouvellement rétablie jouait au chat et à la souris avec sa séductrice. Le Bachar se doutait bien qu'elle ne laisserait pas ce petit jeu continuer longtemps. Mais cette affaire ne le regardait plus. Duncan n'était plus jeune et désarmé face aux artifices de la révérende mère. Son corps juvénile abritait maintenant le cerveau d'un homme mûr, fort d'une expérience qui lui permettrait de prendre ses décisions tout seul. Duncan et Teg avaient passé toute la matinée à l'entraînement en ne s'accordant qu'une brève pause. La faim commençait à tirailler le Bachar, mais il ne voulait pas encore mettre fin à la séance. Les exploits de Duncan avaient atteint de nouveaux sommets aujourd'hui, et il n'avait pas encore fini de s'améliorer. Assis dans le fauteuil cage d'un pupitre fixe, Teg disposa les forces d'attaque en une manœuvre complexe, et frappa simultanément sur la droite, sur la gauche et d'en haut. Les armureries des Harkonnen avaient produit de grandes quantités de ces machines d'entraînement exotiques, dont Teg n'avait pour certaines entendu parler que par l'intermédiaire de récits historiques. De toute évidence, elles étaient parfaitement familières à Duncan, qui s'en servait avec une dextérité admirable. Le programme qu'ils utilisaient en ce moment mettait en jeu des assaillants qui devaient frapper à travers un champ de force. « Ils sont réglés pour ralentir automatiquement leurs mouvements », avait expliqué Duncan de sa voix jeune mûre. « S'ils frappent trop vite, évidemment, le bouclier les arrête. »
« Nous n'utilisons presque plus ce genre de champ de force », avait dit Teg. « Quelques associations les emploient encore sous forme de sport, mais... »
Duncan exécuta une riposte éclair qui envoya 3 assaillants au tapis avec suffisamment de dommages pour que les robots d'entretien du non-globe interviennent immédiatement. Duncan releva la cage de protection et mit le système en veilleuse sans l'arrêter pour se rapprocher de Teg en respirant à fond, mais sans aucune difficulté. Regardant par-dessus l'épaule du Bachar, il eut un sourire et un léger hochement de tête. Teg se tourna vivement pour n'entrevoir qu'un pli de la robe de Lucille qui s'éloignait. « C'est comme un duel, » expliqua Duncan. Elle essaie de percer ma garde et je riposte.
Fais attention, tu as affaire à une révérende mère.
J'en ai fréquenté plus d'une à mon époque, Bachar. Une fois de plus, Teg se trouva décontenancé. On l'avait averti qu'il lui faudrait se réadapter à un Duncan Idaho entièrement changé, mais il n'avait pas prévu que cette réadaptation lui coûterait à chaque instant de tels efforts. L'expression qu'il lisait en ce moment dans le regard de Duncan le laissait perplexe. « Je crois que nos rôles ont été légèrement modifiés, Bachar, » reprit le Gola en se baissant pour ramasser une serviette avec laquelle il s'épongea le visage.
« Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à t'apprendre, » reconnut Teg.
Il aurait bien voulu cependant que Duncan prît un peu plus au sérieux son avertissement concernant Lucille. S'imaginait-il que les révérendes mères de l'ancien temps étaient identiques à celles d'aujourd'hui? C'était hautement improbable, pensait Egg pour sa part. Comme tout le reste, le Bene Gesserit évoluait et changeait continuellement. De toute évidence, Duncan avait pris sa décision sur le rôle qu'il était prêt à jouer dans les machinations de Tarazza. Il n'attendait pas seulement son moment, mais il avait décidé d'entraîner son corps pour qu'il corresponde aux critères qu'il s'était personnellement fixés, indépendamment des intentions de Bene Gesserit à son égard. Il a déjà pris sa décision sans disposer de données suffisantes, se dit Egg. Duncan laissa tomber sa serviette et garda quelques instants les yeux baissés dessus. « Laissez-moi juge de ce que vous pouvez m'apprendre, » dit-il. Il tourna la tête vers Teg, toujours assis dans son fauteuil cage, et l'observa avec attention. Teg prit une profonde inspiration. Il percevait la faible odeur d'ozone qui émanait de cet indestructible matériel arconène qui attendait en ronronnant doucement le rappel à l'action de Duncan. Et la transpiration du Gola avait une dominante amère. Duncan éternua. De nouveau, Teg huma l'air chargé de la poussière de leurs activités quotidiennes. Il y avait des moments où l'on pouvait en sentir le goût sur le bout de sa langue plutôt que dans ses narines. Alcalin. Et il flottait par-dessus tout cela le parfum des épurateurs d'air et des régénérateurs d'oxygène. L'arôme floral incorporé au système était net, mais Teg n'avait pas réussi à identifier la fleur. Depuis un mois qu'il l'occupait, le globe s'était aussi imprégné d'odeurs humaines, progressivement intégré au complexe original, transpiration, odeur âcre de cuisine ou de recyclage des déchets, jamais complètement éliminés. Pour Teg, ces résidus qui évoquaient trop leur présence avaient un caractère étrangement agressif. Il se prenait parfois à plisser les narines ou à tendre l'oreille à la recherche de bruits intrus, quelque chose de plus que l'écho de leurs propres pas dans un couloir ou que le choc assourdi d'ustensiles métalliques dans la cuisine. La voix de Duncan le tira de sa rêverie. « Vous êtes un drôle d'homme, Bachar. »«
Comment ça ?»«
C'est votre ressemblance avec le duc Leto. Vous avez la même tête, c'est fantastique. Il était un peu plus petit que vous, mais les traits du visage... »
Il secoua la tête en spéculant sur la responsabilité du Bene Gesserit dans la présence de ses signatures génétiques sur le visage de Teg. Le profil d'épervier, les sillons profonds, et surtout, ce rayonnement intérieur. Cette assurance de supériorité morale. Supériorité à quel point et morale à quel point? D'après les archives qu'il avait pu consulter à la citadelle, et dont il était sûr à présent qu'elles avaient été mises exprès à portée de sa curiosité, la réputation de Teg était quelque chose de légendaire et de pratiquement universel chez ses contemporains. À la bataille de Marcon, il avait suffi que l'ennemi apprenne que c'était Teg en personne qui s'apprêtait à le combattre, pour que ses généraux demandent à parlementer. Mais était-ce la vérité? Duncan regarda Teg dans son fauteuil cage et lui posa la question.
« La renommée peut être la meilleure des armes, » répondit le Bachar. « Elle permet souvent d'éviter de répandre le sang. »
« Sur Arbelouf, pourquoi êtes-vous monté en première ligne avec vos troupes d'élite ?»«
Où as-tu appris ça ?» demanda Teg étonné.
« À la citadelle. Vous auriez pu vous faire massacrer ?» En quoi cela vous aurait-il avancé?
Teg se remémora que dans ce jeune corps qui se tenait devant lui était une foule de connaissances impossibles à déterminer et qui devait le guider dans sa recherche de renseignements. C'était probablement dans cette zone inconnue, se disait le Bachar, que résidait la plus grande utilité du Gola pour le Bene Gesserit.
Nous avions essuyé de graves pertes les deux jours précédents, répondit-il. Je n'avais pas bien su évaluer l'importance de la terreur et du fanatisme qui motivaient l'ennemi.
Mais les risques?
Ma présence en première ligne disait aux miens, voyez, je partage les risques avec vous.
Les documents de la citadelle disaient que la planète avait été entièrement corrompue par les danseurs visages. Patrine m'a raconté que vous vous étiez opposé à ceux de vos officiers qui recommandaient de nettoyer radicalement Arbelouf, y compris.
Tu n'y étais pas pour savoir, Duncan.
« Justement, je sais de faire comme si. Vous avez donc épargné l'ennemi malgré les avis de votre entourage. »«
Nous n'avons pas épargné les danseurs visages. » »«
Mais aussitôt après, vous avez circulé sans armes parmi les rangs ennemis, avant même qu'ils aient déposé leurs propres armes.
C'était pour les assurer qu'ils seraient bien traités.
Vous couriez un grand danger?
Tu crois? Un grand nombre se sont ralliés à nous pour participer à l'assaut final sur Kroynin, où les ennemis du Bene Gesserit ont été mis en déroute. Duncan observait Teg de son regard perçant. Non seulement le vieux Bacha ressemblait physiquement au duc Leto, mais il possédait la même sorte de charisme propre aux Atreides. C'était une figure légendaire même parmi ses anciens ennemis. Teg avait dit un jour qu'il descendait de la célèbre Ganyma des Atreides, mais il y avait nécessairement autre chose. Duncan avait le vertige à l'idée de ce que les maîtres généticiens du Bene Gesserit semblaient capables de faire.
« Reprenons l'entraînement, » dit-il abruptement.
« Ne t'esquinte pas. »
« Vous oubliez, Bachar, que j'ai eu autrefois un corps pas plus vieux que celui-ci. Je m'en souviens, c'était sur Gedi Prime. »«
Gameux. » »«
Le nom moderne est tout à fait approprié, mais c'est l'ancien qui reste accroché à ma mémoire. C'est en rapport avec les raisons pour lesquelles elles m'ont fait venir ici, je le sais. »
Évidemment, il sait, se dit Teg. Le bref répit lui ayant permis de récupérer, Teg introduisit un nouvel élément dans sa ligne d'attaque et lança une fulgurante traînée de feu sur le flanc gauche de Duncan. Avec quelle facilité celui-ci esquiva.
Il faisait appel à une variante étonnamment hétéroclite des cinq postures, chaque mouvement semblant improvisé avant même que le besoin s'en fît sentir. Chaque attaque est une plume flottant sur la route infinie, fit Duncan d'une voix qui ne trahissait pas le moindre essoufflement. Quand la plume approche, elle est déviée puis ôtée. Tout en parlant, il esquivait puis contrait un nouvel assaut. La logique mentate de Teg suivait ses mouvements sur un terrain qu'il reconnaissait volontiers dangereux. Dépendance et bûche maîtresse. Le Gola semblait faire partie de l'attaque. Il la précédait, alignant ses mouvements sur ceux de Teg selon un rythme parallèle plutôt que décalé. Teg était obligé de faire appel à toutes ses ressources, tandis que les énergies de simulation brûlaient et crépitaient tout autour d'eux sur le sol. L'insaisissable Duncan dans sa cage mobile était partout à la fois. Pas un seul projectile chercheur de Teg ne l'atteignit. Pas une seule traînée de feu ne l'effleura. Il sautait par-dessus, se glissait par-dessous, apparemment indifférent à la douleur réelle que ses armes d'entraînement auraient pu lui causer. À nouveau, Duncan accéléra le rythme de son attaque. Une douleur fulgurante remonta le bras gauche de Teg, de la main qui tenait les commandes jusqu'à l'épaule. Poussant un cri, Duncan coupa immédiatement le courant. « Désolé, Bachar, vous vous êtes défendu comme un lion, mais j'ai bien peur que vous n'ayez été vaincu par le poids des ans. »
Il sortit une nouvelle fois de sa cage pour s'avancer vers Teg. « Une petite punition pour me rappeler les mauvais traitements que je t'ai infligés, » fit ce dernier en se frottant le bras.
« Mettons cela au compte de l'excitation du moment, » répliqua Duncan. « Je crois que ça suffit comme ça pour aujourd'hui. »«
Pas tout à fait encore. Il ne suffit pas de fortifier tes muscles. »
À ces mots, Duncan éprouva dans tout son corps une étrange sensation d'alerte.
Il sentait le contact inorganisé de cette chose partielle que l'éveil de sa mémoire n'avait pas encore exhumée et qui était tapie en lui, pensait-il, comme une bête tenue en laisse, attendant d'être lâchée pour bondir.
« Que voudriez-vous faire de plus ? »
demanda-t-il d'une voix rauque. « C'est ta survie qui se trouve dans la balance. Tout ce que nous faisons ici est destiné à te protéger pour que tu puisses gagner Rakis. »
« Dans l'intérêt du Bene Gesserit et pour des raisons que vous dites ne pas connaître. »«
C'est vrai que je ne les connais pas, Duncan. »«
Mais vous êtes un Mentat ? » ?»«
Les Mentat ne peuvent faire de projections s'ils n'ont pas de données. »«
Vous croyez que Lucille en sait plus ?»
Je n'en suis pas très sûr, mais je voudrais te mettre de nouveau en garde en ce qui la concerne. Elle a pour ordre de te conduire sur Rakis, après t'avoir préparé à ce que tu devras y faire.
« Ce que je devrais y faire ?» répéta Duncan en secouant latéralement la tête. « N'est-ce pas à moi de choisir ce que je désire faire ? Qu'est-ce que vous croyez avoir réveillé en moi ? Un foutu danseur visage uniquement capable d'obéir aux ordres ?
Cela veut dire que tu refuses d'aller sur Rakis ?
Cela veut dire simplement que je prendrai ma décision quand je saurai exactement de quoi il s'agit. Je ne suis pas un tueur à gages.
Tu crois que j'en suis un, Duncan ?
Je sais que vous êtes quelqu'un d'honorable, digne de respect et d'admiration. Accordez-moi au moins le droit d'avoir mes propres critères dans ces domaines.
On vient de te donner une nouvelle chance de vivre.
Mais vous n'êtes pas mon père, et Lucille n'est pas ma mère. Imprégnatrice,
À quoi espère-t-elle donc me préparer ?
Il est possible qu'elle ne le sache pas, Duncan. Comme moi, elle ne possède peut-être qu'une partie des clés. D'après ce que je sais du Bene Gesserit, c'est même fort probable.
Ainsi, tous les deux, vous avez pour tâche de me préparer et de me livrer sur Rakis. Voilà le colis dont vous avez passé commande.
Cet univers est très différent de celui où tu es né la première fois, dit Teg. Comme à ton époque, nous sommes toujours liés par la grande convention sur les armes atomiques et les effets para-atomiques des interactions bouclier laser. Il est toujours écrit que les attaques surprises sont interdites. Il y a par-ci par-là des bouts de papier portant notre signature, ou nous...
Mais les non-vaisseaux ont changé les bases de tous ces traités, interrompit Duncan. Je crois avoir appris correctement mes leçons d'histoire à la citadelle, mais dites-moi, Bachar, pourquoi le fils de Paul a-t-il demandé au Tleilaxu de lui fournir tous ces golas de moi par centaines durant des millénaires?
Le fils de Paul?
Les documents de la citadelle l'appellent l'Empereur-Dieu. Vous le dénommez le tyran.
Ah, je ne crois pas que nous connaissions ses véritables raisons. Peut-être cherchait-il à compenser la perte de quelqu'un qui...
Vous m'avez fait revenir pour affronter le ver,
s'écria subitement Duncan. C'est cela que nous sommes en train de faire? Se demanda Teg. Il avait déjà plusieurs fois envisagé cette possibilité. Mais ce n'était qu'une hypothèse et non une projection. Et même ainsi, les intentions de Taratza ne pouvaient être limitées à cela. Teg le sentait dans chaque fibre de son intuition mentate. Lucille connaissait-elle la réponse? Teg n'avait pas la prétention de pouvoir extorquer des révélations à une révérende mère à part entière. Non, il faudrait attendre le bon moment, observer et écouter patiemment. À sa façon, c'était de toute évidence l'attitude pour laquelle avait opté Duncan. Il était trop dangereux de s'opposer ouvertement à Lucille.
« Franchement, Duncan, je n'en sais rien, » répondit Teg à haute voix en secouant la tête.
« Mais vous exécutez les ordres. »
« Selon le serment qui me lie au Bene Gesserit. »
Ruse, tromperie, ce sont des mots vides de sens quand la survie de l'ordre est en jeu, »
murmura Duncan en le citant.
« J'ai dit cela, c'est vrai, » reconnut Teg.
« C'est justement parce que vous l'avez dit que je vous fais confiance aujourd'hui. Mais je ne me fie pas, Lucille. »
Teg courba le menton jusqu'à sa poitrine. « Dangereux. Beaucoup trop dangereux. » Avec plus de lenteur et de délibération qu'en de précédentes occasions, il chassa de son esprit ce genre de pensée et entreprit un nettoyage mental en se concentrant sur les priorités établies à son intention par Taratza. « Vous êtes mon Bachar. » Duncan observait le visage de Teg depuis un moment. La fatigue inscrivait ses rides dans les traits du vieil homme, rappelant soudain son grand âge au Gola. Celui-ci aurait été curieux de savoir si des hommes comme Teg avaient parfois la tentation de s'adresser au Tleilaxu pour qu'il les transforme en Gola. La réponse était probablement négative. Le risque était trop grand de devenir de simples marionnettes entre les mains du Tleilax. Cette pensée envahissait l'esprit conscient de Duncan au point qu'il en restait figé et que Teg, levant les yeux vers lui, ne manqua pas de s'en apercevoir aussitôt. « Quelque chose qui ne va pas ?»«
Les Tleilaxu m'ont fait quelque chose. » Quelque chose qui n'est pas encore remonté à la surface,
murmura Duncan d'une voix sourde.
Exactement ce que nous redoutions.
C'était Lucille, qui se tenait dans l'encadrement de la porte derrière Teg. Elle s'avança pour s'immobiliser à deux pas de Duncan.
J'ai tout entendu, reprit-elle. Vous êtes une mine de renseignements, vous deux.
Teg parla vivement, dans l'espoir d'émousser la colère qu'il sentait en elle.
Il vient de maîtriser les sept postures aujourd'hui.
« Il frappe comme la foudre, » fit Lucille. « Mais n'oubliez pas qu'au Bene Gesserit, nous jaillissons comme l'eau en occupant tout l'espace à la fois. Ne voyez-vous pas, » ajouta-t-elle en baissant les yeux vers Teg, « que notre Gola est déjà au-delà des postures ?»«
Pas de point fixe, pas de posture possible, » déclara Duncan.
Teg leva vivement les yeux vers lui. Il se tenait la tête haute, le front lisse, le regard net face à celui du Bachar. Il avait évolué physiquement d'une manière étonnante depuis que sa mémoire originale lui avait été rendue.
« Allez au diable, Miles !»
grommela Lucille. Mais l'attention de Teg était toujours fixée sur Duncan. Son corps tout entier semblait rehaussé d'une vigueur nouvelle. Il émanait de lui une grâce qui n'était pas là auparavant. Duncan se tourna vers Lucille.
« Vous avez peur d'échouer dans votre mission ?»« Certainement pas. Tu es encore un mâle. »
Et elle songea. « Oui,
ce jeune corps doit déborder des liqueurs ardentes de la procréation. Ses détonateurs hormonaux sont intacts et ne demandent qu'à être déclenchés. Cependant, dans son attitude présente et dans la manière dont il la regardait, il y avait quelque chose qui la forçait à hisser son attention jusqu'à de nouveaux sommets dévorateurs d'énergie. « Que t'ont fait les Tleilaxu ? » demanda-t-elle. Il répondit avec une impertinence qui ne correspondait pas à son état d'âme. « Oh, grande imprégnatrice, si je le savais, je vous le dirais tout de suite. Tu crois que c'est un jeu que nous sommes en train de jouer ? Je ne sais pas à quoi nous sommes en train de jouer. À l'heure qu'il est, beaucoup de gens savent que nous ne sommes pas sur Rakis, où l'on s'attendait à nous voir fuir. »
« Et gameux grouille de représentants de la dispersion, » ajouta Teg. « Ils sont suffisamment nombreux pour explorer toutes les pistes locales.
Qui pourrait soupçonner l'existence d'un non-globe oublié datant de l'époque des Harkonnen ?» demanda Duncan.
« N'importe qui, à condition d'établir le rapport entre Rakis et Dar Ezzbalat, » répondit Teg.
« Si tu crois qu'il s'agit d'un jeu, tu admettras que la partie s'annonce plutôt mal pour nous, » dit Lucille.
Elle pivota sur un talon pour faire face à Teg.
« Quant à vous, vous avez désobéi aux ordres de Taratza. »«
C'est faux, » protesta Teg. « J'ai fait exactement ce qu'elle m'avait ordonné de faire. Je suis son bachar et vous oubliez à quel point elle me connaît. »
Avec un choc abrupt qui la rendit muette, Lucille comprit d'un seul coup toute la subtilité des manœuvres de Taratza.
« Nous sommes de vulgaires pions. »
Avec quel art et quelle subtilité Taratza déplaçait ses pions. Lucille ne se sentait nullement amoindrie à l'idée d'être un simple pion posé sur un échiquier. C'était une notion à laquelle toutes les révérendes mères du Bene Gesserit avaient toujours été accoutumées. Même Teg le savait.
Amoindrie, pourquoi donc ?
La situation dans laquelle ils étaient tous plongés prenait de plus en plus d'ampleur dans son esprit. Les paroles de Teg l'avaient fait réfléchir. Elle était sidérée par la minceur de ses propres vues jusqu'à présent sur les différentes forces qui s'affrontaient autour d'eux. Tout se passait comme si elle n'avait vu d'abord que la surface d'un fleuve aux eaux tumultueuses, pour être plongée ensuite, tout d'un coup, dans ses formidables remous intérieurs. Maintenant qu'elle se sentait ballottée de tous les côtés par les flots, elle éprouvait le désarroi d'une compréhension totale et brutale. Des pions peuvent être sacrifiés.